Bon matin. Ça va bien tout le monde? On va commencer en prière. Père éternel, merci de nous donner la grâce et l'honneur de pouvoir t'appeler Père, de pouvoir compter sur toi comme un papa plein d'amour puis qui prend soin de nous, qui surveille chacun de nos cheveux. Merci Seigneur pour ce temps ce matin qu'on peut partager ensemble en toute liberté. Je te prie Seigneur que ta parole continue à faire son œuvre dans nos vies, qu'elle puisse venir vraiment nous toucher par ton Saint-Esprit. Amen. Ce matin, je vais vous parler des racines. Excusez, je vais ajuster ça un petit peu. Les racines, comme on sait, au niveau d'un arbre ou d'une plante, c'est vraiment ce qui les nourrit, ce qui leur permet d'aller chercher les nutriments, d'aller chercher l'eau, de s'abreuver. Puis dans nos vies, c'est une image évidemment, mais c'est pareil. Ce qui est nos racines, ce qui fait partie de notre héritage, c'est aussi de ça qu'on s'abreuve. En Christ aussi, on a des racines, puis c'est lui qui nous abreuve par ces racines-là. Dans les racines que je vais aborder aujourd'hui, il y a deux grandes catégories. Il y a les racines d'amertume. Malheureusement, parfois nos racines s'abreuvent d'amertume. Puis les racines de vanité. C'est pas quelque chose qui est fréquent dans la vie d'un être humain, la vanité, mais je vais en parler quand même. Je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit. Puis on va y aller comme ça, un type de racine à la fois. Pour certains, leurs racines ne sont qu'une source d'amertume inépuisable, puisant dans des souvenirs venimeux, dans des blessures infectées depuis longtemps, trop longtemps. Pour d'autres, peut-être moins accablés ou enchaînés par le passé, ces racines semblent bonnes, trop bonnes en fait, car on pourrait presque croire que l'eau qu'elle puise est claire, potable et même nourrissante. Ses racines s'étendent vers ce qui fait honneur et gloire, ce qui nourrit délicieusement l'orgueil. Mais la réalité est que chacun d'entre nous possède de ces deux types de racines, puisant parfois dans la noirceur des blessures que nous ressassons, blessures que le monde et l'ennemi raniment avec tant de facilité, et parfois dans la source inépuisable de notre vanité, de notre désir de gloire insatiable. Mais par la grâce de Dieu, on s'est fait donner des racines pour remplacer ces racines-là. Au niveau des racines, parfois, qu'on puise, puis qui vient vraiment de notre vanité, on a tous vécu ça quelque part dans notre vie. Parfois, il y a les racines qui sont liées à notre patrimoine, nos ancêtres. Peut-être certains d'entre nous, on a des grands hommes, des grandes femmes qui ont marqué l'histoire, puis on s'appuie là-dessus. Ou peut-être que c'est une famille, on a une famille de renom, peut-être pas, mais il y en a vraiment qui s'appuient sur ce genre de choses-là pour être nourris dans leur vie, dans la manière qu'ils marchent dans la vie. Parfois, on s'appuie sur notre héritage culturel, la richesse de notre héritage culturel ou de notre pays ou la puissance de notre pays. Puis parfois, on le fait au détriment de d'autres cultures et de d'autres pays, malheureusement. Puis parfois, c'est tout simplement notre accumulation de connaissances, notre ingéniosité, les études qu'on a. C'est pas des choses qui sont mal en soi, c'est juste que parfois, on s'appuie davantage là-dessus que sur les nouvelles racines qu'on a en Christ. Puis évidemment, ceux qui n'ont pas Christ, c'est tout ce qu'ils ont, ces racines-là. Qu'est-ce qui nourrit notre orgueil? Est-ce que c'est nos ancêtres, notre culture, notre ethnie, notre patrimoine familial, notre maison, notre voiture, nos possessions, nos connaissances, nos diplômes, notre emploi, notre apparence, nos vêtements. Vers quoi nous tournons-nous pour rassasier nos inquiétudes, nos agitations, nos moments de vide? Vers quel type de consommation nous tournons-nous? Même nous, chrétiens. Peut-être qu'on ne vit pas des extrêmes en tant que chrétiens parce que, par la grâce de Dieu, on a été libérés de plein de choses. Mais il y a sûrement encore plein de choses à travailler dans nos vies. Puis merci Seigneur qu'il continue jour après jour à travailler ces choses-là. Quelles sont les racines qu'on abreuve dans nos vies? On va tourner dans un premier passage. Marc 11, verset 12. Il s'agit de la malédiction du figuier. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, il eut faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il y trouverait quelques fruits. Quand il se fut approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant alors au figuier, il lui dit « Que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. » Et ses disciples l'entendirent. On continue un peu plus loin au verset 20. C'est après quelques événements à Jérusalem, il ressort. Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier. Il avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit. Il est devenu tout sec. » Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. » J'ai pris ce petit bout-là de la parole parce que une des manières que ça me parle, ce passage-là, puis il y a toutes sortes de manières de l'interpréter, c'est que Jésus, lui, il connaît nos racines charnelles, il connaît la nature de péché qui est en nous, puis il se laisse pas berner par ces racines-là. Il sait que c'est des racines desséchées, puis que même si c'est pas la saison, il sait que ces racines-là vont faire en sorte que l'arbre qui est au-dessus portera jamais les fruits que lui désire. Que ces fruits-là, c'est seulement lui qui peut nous les amener avec ses racines à lui. Quand bien même, si on fait une image, quand bien même cet arbre-là était un arbre magnifique, vénéré de tous, parce qu'on sait que dans plusieurs cultures, les arbres, c'est beaucoup relié aux divinités puis aux idoles. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, souvent on parlait de térébinthe, qui est une sorte d'arbre, qui était aussi relié à l'idolâtrie. Puis quand bien même nos racines feraient partie d'un arbre aussi grandiose et aussi beau, ça va rester un arbre qui ne peut pas porter les fruits que Dieu désire. Seulement son arbre à lui va nous donner la vie éternelle puis va nous donner la nourriture magnifique qui sait si bien nous donner. Parfois aussi, malheureusement, je l'ai vécu souvent, on se glorifie même des choses que Dieu nous donne. On se glorifie comme si ça venait de nous ou comme si on était tellement meilleur que les autres qui n'ont pas ces valeurs-là et ces principes-là. Puis ça aussi, c'est un orgueil, c'est une vanité qui n'est pas dans le désir de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, ça aussi, il peut nous l'enlever puis il peut nous amener dans une humilité. Puis personnellement, c'est quelque chose qu'il faut constamment que je mette devant Dieu parce que j'ai tendance à, une fois que j'apprends des nouvelles choses, de dire « Ah, voici, je connais ci, je connais ça. » Puis faut vraiment que ce soit Jésus en premier. Surtout quand on évangélise, on utilise le mot « évangéliser », mais quand on parle de notre foi à quelqu'un, quand on témoigne de l'amour de Dieu dans notre vie, c'est quelque chose qui est tellement important. J'ai tellement bloqué des avenues dans ma vie quand j'essayais d'aborder les choses, par exemple, sur parler avec une autre personne qui était dans mes cours en sciences, puis commencer à la confronter sur la création versus l'évolution, puis à faire une guerre de mots, une guerre de connaissances, ça mène à rien. C'est vraiment par l'amour de Dieu qu'il peut y avoir quelque chose qui naît. puis par son esprit dans cette personne-là. On va lire un autre passage. Excusez-moi. Philippiens, chapitre 3, verset 3. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le huitième jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je veux même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Ici, on voit vraiment l'apôtre Paul qui fait écho vraiment de ce qu'on a discuté, de tout ce en quoi il aurait pu se glorifier. Puis, en fait, il a tout mis en Christ. Puis, merci Seigneur qui nous amène à faire la même chose par sa grâce, par son esprit, parce que c'est certainement pas une réaction naturelle qui vient de notre cœur, mais ça vient vraiment de lui. Un autre type de racine, qui est peut-être moins visible parfois, mais qui fait des ravages, c'est nos racines d'amertume, nos racines de rancune. Parfois sont tout petites, parfois sont grosses, ça dépend qu'est-ce qu'on a vécu, où on est rendu dans notre cheminement par rapport à ces choses-là. Mais je voulais vous raconter l'histoire d'un pasteur qui m'a marqué. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissez Loren Cunningham. C'est un homme de Dieu qui a fondé Jeunesse en Mission, Youth with a Mission, YWAM. C'est une mission qui est internationale, puis j'ai eu la chance de connaître un peu plus Jeunesse en Mission parce que j'ai grandi près d'une des maisons Jeunesse en Mission à Dunham, mais ils sont un peu partout dans le monde. Puis, à un moment donné, il y a déjà plusieurs années, en 1991, Loren Cunningham a emmené un message en Allemagne. C'était donc auprès des Allemands, à peine 2 ans après la chute du mur de Berlin. Donc, c'était totalement dans une atmosphère que nous, on n'a peut-être jamais connue. Peut-être que oui aussi, mais c'était vraiment une atmosphère lourde, même pour les chrétiens. Puis, il a raconté à ce moment-là, en fait, je suis tombé sur son message de cette journée-là, il a raconté avoir rencontré un ami pasteur avec qui il déjeunait régulièrement. Cet homme-là, lorsqu'ils se sont rencontrés pour déjeuner, il a partagé que la nuit précédente, il avait été réveillé en plein milieu de la nuit, vers 2 heures du matin. Puis, son premier réflexe, ça a été de se dire, est-ce que le Seigneur veut que je prie pour quelqu'un? Pourquoi me réveiller en plein milieu de la nuit? C'est étrange. Puis, en fait, ce qui lui est venu, c'était encore plus étrange. Il sentait vraiment que Il devait pardonner à quelqu'un. Mais pardonner à qui, il n'avait aucune idée. Il n'était pas nécessairement dans une période de sa vie où il y avait une grosse rancune contre quelqu'un, où il avait eu des disputes avec qui que ce soit. Il ne savait vraiment pas à qui il devait pardonner. Puis, il s'est mis à prier pour demander au Seigneur de quoi il s'agissait. Puis, il y a un nom qui est venu sur son cœur, subitement comme ça. Puis, pourtant, c'est le nom d'une personne qui était déjà décédée. Une personne qu'il avait même lui-même jamais rencontré. Puis ce nom-là qui est venu sur son cœur, c'était Hitler. Puis ce chrétien-là vivait même pas en Allemagne, n'a même pas vécu en Europe. C'est un Américain. Puis pourtant, le Seigneur l'amenait à sonder son cœur, comme on l'a chanté tout à l'heure, puis à voir pourquoi il devait pardonner à un homme qui n'existait même plus. Hitler. Puis en fait, c'était vraiment que le Seigneur voulait qu'il soit libéré d'un fardeau qui se donnait par rapport à cet homme-là d'histoire qui a existé puis qui n'était même plus là. C'était pas pour Hitler qui faisait ça, évidemment. C'était pour se libérer lui-même des chaînes qui se mettaient envers l'homme qui avait été Hitler, envers la destruction qu'Hitler avait faite autour de lui. Puis ça m'a marqué, puis ça... Ça l'a marqué aussi Lorraine Cunningham qui a rapporté ça, parce que lui, il se disait, il y a d'autres personnages que lui aussi avait même côtoyé, puis qu'il y avait une rancune cachée envers ces gens-là. Parfois, on a de la rancune envers des gens qui ont été proches de nous, mais dans ce cas-ci, c'était vraiment de scruter est-ce que il y a des choses qui nous gardent captifs, aussi petites soient-elles, puis qui nous empêchent de s'épanouir encore plus dans le Seigneur. Puis dans ce qu'il nous appelle à faire. Donc, c'était quelque chose d'assez spécial à ce niveau-là. Lorraine Cunningham, lui est venu en tête un homme qu'il a côtoyé, c'est Mao Tse-tung, qui a été celui qui a amené le communisme en Chine, puis qui a amené beaucoup, beaucoup de désolation à travers ça. Parce que, au-delà d'une idéologie politique, ce qui a amené, c'est la mort autour de tous ceux qui ne voulaient pas suivre ça, c'était la mort. C'était pas tant au niveau de ce qu'ils voulaient discuter politiquement, mais pareil comme Staline, pareil comme d'autres, que c'était la mort, pareil comme complètement d'autres régimes qui ont tout simplement détruit au lieu de construire l'être humain. Donc, dans le cas de Lorraine Cunningham, peu importe ce que Mao Tse-tung avait fait, lui, il avait de la rancune contre cet homme-là, puis il s'en est rendu compte. À cette époque-là, Lorraine Cunningham, je pense qu'il est décédé aujourd'hui, il était déjà pas mal vieux en 91, il avait vécu tout le changement qu'il y avait eu en Chine. Donc, c'est quelque chose qui l'avait marqué, tous les chrétiens qui avaient été persécutés en Chine, puis il y avait une rancune contre cet homme-là. Il y a plein de noms comme ça qui nous viennent quand on lit dans la Bible, des personnages publics. Puis chacun, on a tous notre vécu, puis on a tous notre manière de voir ça. Pour certains, Mao Tse-tung, pour prendre ce nom-là encore, c'était pas du tout un homme qui leur amenait de la rancune. Pour d'autres, oui. C'est pas sur ces personnes-là vraiment qui est le point, c'est vraiment qu'est-ce que ça nous fait à nous? Comment nous, on s'enchaîne avec des rancunes qu'on a avec qui que ce soit dans le monde? Que ce soit des personnages politiques, des personnages, des vedettes à la TV, peu importe qui, que ce soit notre voisin. Dans la Bible, on a des noms aussi qui peuvent peut-être nous amener à avoir une rancune. On parle souvent de Pharaon, à quel point il a amené une oppression, bien, les différents pharaons, à quel point ils ont opprimé le peuple de Dieu. On parle de Nébuchadnezzar, les amis de Job, à quel point ils persécutaient Job, puis que des fois on lit ça, puis on se rend pas compte que c'est des vrais êtres humains qui ont existé, puis peut-être que nous, en lisant ça, on les déteste. On prend ça sur nous de les détester à la place de Job. Mais on en a d'autres. On a Absalom, on a Saül, les fils d'Élie, Judas, même les pharisiens, Pilate, Hérode. Il y en a plein dans la Bible. Puis dans le monde autour de nous, on en a plein aussi qui ont existé ou qui n'existent plus. Des noms que je vous ai déjà dit. On a même des grands philosophes que, moi en tout cas, quand j'ai appris à les connaître, je me suis mis à les haïr pour ce qui amenait partout dans le monde, qui était de la haine. On pense à Nietzsche, que peut-être vous ne le connaissez pas beaucoup, mais il amenait toute une philosophie de complaisance, puis il persécutait les chrétiens. Toutes sortes de gens dans nos vies, on pense à Darwin, on pense à des personnalités publiques, comme Marilyn Manson, Madonna, David Bowie, plein de noms qu'on peut aimer, détester, parce qu'ils représentaient le péché pour nous. Donc, c'est ça, on a même des noms un petit peu plus de gens qui ont fait des choses terribles également, comme Charles Manson, Ted Bundy, Guy Turcotte, plus récemment. Donc, des gens qui ont fait des choses réellement terribles, puis je parle pas d'excuser ces gens-là, là. C'est pas du tout ça. Je parle pas de juger ces gens-là non plus, mais simplement parce que Dieu, il a son tribunal, Dieu s'occupe de la justice. Mais c'est quand nous, on développe de l'amertume et des rancunes contre qui que ce soit, à quel point ça nous enchaîne, puis à quel point le Seigneur veut nous amener à scruter le moindre de ces racines-là pour lui remettre à lui. Donc, c'est des hommes et des femmes qui ont vécu ou qui vivent encore, puis qu'on doit simplement remettre à Dieu. Juste pour vous partager rapidement des choses que dans ma vie, moi, j'ai pu développer comme attitude. Ça varie avec les âges. Je me souviens encore que quand j'étais tout petit, vers l'âge de 6 ans, c'était la guerre avec mes voisins anglophones. On se lançait des roches, on se criait des noms. C'était pas beau. Mais à peine quelques années après, c'était l'inverse. J'avais plein d'amis anglophones, puis j'avais de la rancune envers le peuple québécois à cause de tout ce que je voyais de débauche partout, de la Saint-Jean-Baptiste, tout ça. J'avais comme, rendu à l'adolescence, c'était comme l'inverse. C'était comme le dédain de mes frères et sœurs québécois juste parce que je voyais des extrêmes de péché que dans le fond, je n'étais pas à l'abri moi-même, là. Après ça, ça a été, mettons, certains professeurs à l'école, des injustices, des amis à l'école qui persécutent ou qui crient des noms. Tu sais, des choses qui ont l'air banales comme ça, mais que tu te rends compte rendu adulte, je pense à telle personne, puis j'ai encore comme on dit en québécois, une crotte sur le cœur. C'est ridicule, je veux dire, cette personne-là, je ne la vois plus depuis 25 ans, puis... Donc, juste de réfléchir à ça, peut-être, dans les prochains jours, même si ça paraît inoffensif comme ça, y a-t-il des gens dans mon parcours, dans ma vie, que je retiens encore quelque chose contre eux, que ce soit fondé ou pas? Plus tard, ben, il y a eu toutes sortes d'événements. Pour ceux qui ne le savent pas, mes parents sont divorcés depuis que je suis bébé. Puis il y a eu des fois où mon père ne se présentait pas quand c'était son tour à avoir les enfants. Puis moi, je l'attendais. Puis là, ma mère, elle me racontait ça en pleurant, tu sais, comme comment j'attendais mon père. Mais c'est des choses qui affectent dans nos vies quand on est enfant, mais qu'on ne se rend pas compte en vieillissant comment ça nous affecte. Puis je me souviens, par contre, que j'ai eu, une fois rendu jeune adulte, j'ai eu la bénédiction d'avoir des temps. On allait quelquefois dans des retraites entre chrétiens, puis je me souviens quelques soirs au camp de l'Arche, où on passait la soirée complète juste à prier Dieu, puis à louer Dieu, puis à lui demander de venir guérir des choses dans nos vies, puis il le faisait. Je me souviens d'avoir passé peut-être 2 heures à prier, puis à un moment donné, pour aucune raison qui me venait comme ça, je me suis mis à pleurer devant Dieu. Je pense que j'avais 22 ans, je n'étais pas un enfant, puis pourtant, ce pleur-là devant Dieu, c'est comme si, quand je me suis relevé de ce temps-là, c'est comme si le fardeau par rapport à mon père n'existait plus. C'est comme si ça faisait plus partie de mes racines, ça faisait plus partie d'un fardeau que j'avais sur le dos, Jésus l'avait pris. Comme il promet dans sa parole qu'il peut faire. Puis ça peut arriver dans n'importe quels événements. Il y a eu d'autres moments où c'était par des gens autour de moi dans le corps de Christ qui me disaient une parole, qui priaient avec moi. Toutes sortes de moments dans nos vies qui nous enlèvent des fardeaux inutiles, qui nous empêchent de marcher avec légèreté avec le Seigneur. Vous savez, dans la parole, ça dit que le fardeau de Jésus est léger et doux, puis que lui prend nos fardeaux. Mais c'est pas tout le temps comme ça qu'on le vit, c'est pas tout le temps comme ça qu'on... Lui, il fait tout le temps, mais je veux dire, on le laisse pas tout le temps faire ça dans nos vies. Puis je voulais simplement vous partager ça. Donc, Dieu est vraiment fidèle pour nous transformer, puis même si on n'est vraiment pas parfait aujourd'hui, on peut regarder en arrière puis voir toutes les petites libérations puis les grandes libérations qu'il a faites dans nos vies, puis avec foi regarder en avant puis savoir qu'il va continuer jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher, il va continuer à nous libérer de plus en plus. Il faut simplement, avec foi, le laisser prendre ces choses-là, puis le laisser nous enlever nos racines pour prendre les siennes. Parce qu'on s'accroche, on est tous pareils, on s'accroche à nos racines terrestres, à nos racines, peu importe lesquelles j'ai nommées depuis le début, on s'accroche à ça, même si ça nous donne de la douleur, on se plaît à avoir des racines, parce que c'est avec ça qu'on se tient. Mais lui, c'est un des pas de foi qu'il veut qu'on fasse, de marcher dans le vide, de plus s'appuyer sur ces racines-là, puis de s'appuyer sur les siennes. C'est facile à dire comme ça, mais c'est toute une autre chose, le laisser le faire dans nos vies. Ce qui m'amène à une autre histoire qui me touche particulièrement ces temps-ci, c'est ma sœur Anne. Ma sœur Anne qui est avec nous à l'église, qui m'a parlé d'une femme de Dieu. Peut-être vous la connaissez, vous l'avez entendue, Corrie Ten Boom. C'est une femme qui a vécu aux Pays-Bas, ce qu'on appelle en anglais « the Netherlands ». Elle a vécu de, je l'ai écrit ici, 1892 à 1983. Donc, elle n'est plus avec nous, elle est avec le Seigneur en ce moment, mais cette femme-là a vécu les deux grandes guerres avec sa famille. Puis, elle a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale l'occupation nazie dans son pays. Donc, l'Allemagne avait conquis les Pays-Bas pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis, elle a grandi à Harlem, pas Harlem à New York, mais Harlem aux Pays-Bas. Puis pendant presque toute la Deuxième Guerre mondiale, avec sa sœur puis son père, ils ont caché des Juifs. La manière que leur maison était faite, il y avait comme une deuxième section cachée de leur maison, puis ils ont caché des Juifs pendant presque toute la guerre. Puis dans les dernières années de la guerre, ils ont été découverts. Donc, elle et sa sœur Betsy, et toute sa famille pratiquement, ont été envoyés dans des camps de concentration comme prisonniers politiques. Eux-mêmes n'étaient pas Juifs, mais ils ont été emmenés avec eux. D'ailleurs, son père, Casper Ten Boom, était déjà rendu à 85 ans quand il a été emmené dans les camps. Puis, lorsque la guerre avait commencé, il avait lui-même été chercher une étoile juive pour se la mettre, même s'il n'était pas juif, parce qu'il disait « Le peuple de Dieu a une étoile, mais c'est assez bon pour moi. Moi aussi, je vais avoir mon étoile. » Donc, c'était un homme déjà très âgé, qui avait l'air d'un patriarche avec sa longue barbe, puis qui témoignait vraiment de l'amour autour de lui. Puis ça s'est transmis à toute sa famille. Donc, Corrie et Betsy étaient déjà rendues à 50 ans à peu près quand elles ont été emmenées dans des camps de concentration ensemble. Elles ont été dans le camp de Ravensbrück, je pense que c'est en Allemagne. Puis elles ont passé plusieurs mois là. Pas besoin de vous dire que c'était très violent, très difficile pour chaque personne qui était là. Elles étaient dans un camp juste avec des femmes. Puis, à un moment donné, elle a développé vraiment une haine pour les gardiens qui étaient là. Sa sœur priait tout le temps pour les gardiens, puis elle, ça commençait à l'irriter, parce qu'elle priait pour les victimes, puis elle n'arrivait pas à prier pour les gardiens. Surtout quand les gardiens battaient sa propre sœur. Vous savez, quand nous, mettons, on reçoit des violences, des fois on développe une haine contre la personne qui nous fait violence, mais des fois c'est pire quand c'est quelqu'un qu'on aime et non pas nous. Puis elle, c'est ça qui est arrivé. Quand c'était dirigé vers sa propre sœur, là, elle n'était pas capable humainement de dealer avec ça. Sa sœur, elle, continuait tout le temps de dire une phrase magnifique. « Il n'y a pas de trou si profond dont l'amour de Dieu ne surpasse pas en profondeur. » C'est traduit, là, mais c'est-à-dire que peu importe la profondeur du trou où on se trouve, le trou de Ravensbrück, peu importe quel autre trou dans notre vie, bien, l'amour de Dieu est bien plus profond que ce trou profond-là. Puis, par la grâce de Dieu, Corrie avait réussi à infiltrer une Bible dans le camp, puis elle faisait des études bibliques avec les femmes tout le temps. Mais à un moment donné, elle était même plus capable d'assister aux études bibliques à cause de sa haine, puis c'est sa sœur Betty qui continuait les études. Puis elle en est venue, elle en est venue à faire cette prière-là. Alors que des pensées de colère vengeresse bouillaient encore en moi, j'ai vu le péché qu'elles étaient. Jésus-Christ était mort pour ce gardien. Pouvais-je demander plus? Seigneur Jésus, pardonne-moi et aide-moi à lui pardonner. Jésus, je ne peux pas le pardonner. Donne-moi ton pardon. Et alors j'ai découvert que ce n'est pas sur notre capacité à pardonner ou à faire le bien que s'appuie la guérison du monde, mais sur sa capacité miraculeuse à lui. Lorsqu'il nous dit d'aimer nos ennemis, il pourvoit avec le commandement l'amour elle-même. Puis une autre phrase qui vient de son livre. Le pardon est un acte de volonté, et la volonté peut fonctionner peu importe la température du cœur. Donc ça commence par une volonté de le faire, mais il ne faut pas attendre que ça soit joyeux et paisible de pardonner. Il faut faire confiance à Dieu qui va faire le reste. Mais comme on voit, ça n'a pas été pour elle 1 + 1 = 2. Il a fallu vraiment qu'elle prie ardemment le Seigneur de le faire à sa place. Donc, à peine quelques mois après le décès de sa sœur dans le camp de concentration, Corrie ten Boom a été libérée. À l'époque, apparemment, c'était une erreur de paperasse, des documents mal placés, parce qu'elle n'aurait jamais dû être libérée. Mais on sait que Dieu, lui, ne fait pas d'erreur. Donc, elle a été libérée avant la fin de la guerre, la seule de sa famille qui a survécu au camp de concentration. Mais elle a passé le reste de sa vie à parler de la profondeur de l'amour de Dieu, qui était plus grande que la profondeur de Ravensbrück. Comme vous voyez, elle est sortie, je pense, en 44 ou 45, avant la fin de la guerre. Mais elle a parlé du Seigneur jusqu'en 1983, partout dans le monde. Je vous invite, si jamais ça vous intéresse, à aller lire sur elle. Il y a toutes sortes de choses. Son livre, moi je l'ai vu en anglais, mais apparemment il existe en français aussi. Là. En anglais, c'est « The Hiding Place ». Puis, il y a même un film que moi, j'ai écouté sur YouTube, gratuit, en anglais. Malheureusement, il n'est pas traduit, mais peut-être un jour, il va être traduit. Donc, c'est ça, c'est une histoire ces temps-ci qui me touche particulièrement. On va lire un autre passage ensemble qui nous amène à voir quelle racine de foi le Seigneur nous lègue comme héritier. Ça va être dans Colossiens 1, le verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Merci Seigneur pour sa parole, qui peu importe ce qu'on vit, que ce soit petit, que ce soit grand, il a la réponse, il a la source de vie. Il y avait deux arbres dans le jardin d'Éden, comme la Bible nous dit. Deux arbres particuliers. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui mène à notre nature pécheresse, puis l'arbre de la vie. Dans nos agissements, dans nos réflexions, dans ce qu'on ressasse dans nos cœurs, qu'est-ce qu'on contribue à faire pousser? Les racines de quel arbre on abreuve? En réfléchissant sur ces choses-là, je me suis rendu compte aussi, comme la Bible nous le dit, que dans le fond, dès qu'on essaie d'abreuver quelque chose par nous-mêmes, c'est sûr que ça va être l'art de la connaissance. Ça ne sera pas l'art de la vie parce que c'est juste Jésus qui peut l'abreuver pour nous. Merci Seigneur pour cet arbre-là. Christ a maudit l'arbre de la connaissance du bien et du mal en y versant son sang, en mourant sur cet arbre de la croix. Il est ensuite ressuscité, étant lui-même la source d'eau vive et l'arbre de la vie. On va lire un autre passage, Colossiens 2, chapitre 6. Excusez, Colossiens chapitre 2, verset 6. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande le Christ et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme, de ce que fait l'homme livré à lui-même. Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant à la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Amen. Je vous encourage donc, évidemment, à votre rythme, de prendre un temps dans les prochains jours, comme on dit dans le lieu secret, un endroit à genoux devant le Seigneur, de juste lui demander de vous révéler qu'est-ce qui pourrait vous retenir encore. Ça ne veut pas dire que ça va être quelque chose d'instantané, mais il peut le faire. De juste prendre un temps d'adoration devant Dieu, puis de reconnaissance, puis d'anticipation qu'il peut continuer à nous enlever, comme je disais tantôt, les petites crottes qu'on a sur le cœur par rapport à des gens, ou les grosses blessures. Il n'y a rien de trop grand pour lui. Puis je vais terminer en prière, puis j'aimerais qu'on refasse le chant qu'on a fait tout à l'heure, « Entre tes mains, j'abandonne ». Merci Père éternel, parce que c'est toi qui fais tout en tous. Rien de ce qu'on a discuté ce matin ne peut venir de nous, si ce n'est les racines de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, bien sûr, mais en toi, on a toute paix, tout amour, une profondeur, une largeur, une hauteur incroyable qu'on peut pas comprendre. Mais Seigneur, par la foi, on veut s'en remettre à toi et abandonner tout entre tes mains. Merci Seigneur pour la foi que toi-même fais grandir en nous. Puis fais grandir encore plus cette foi que tu peux nous transformer encore plus à ton image, nous libérer puis nous donner ton fardeau doux et léger. Amen.
notre Seigneur. Oui, en tout Seigneur. Sans peine, j'abandonne tout à mes
Seigneur, prends mon corps.